Bonsoir, je m'appelle Josh, je suis un des anciens ici et comme Tim a dit, c'est vraiment un plaisir. C'est le premier dimanche de 2024 et donc j'ai une question à vous poser tout au début de l'année. Quelle est votre meilleure expérience récente? Quelle est votre meilleure expérience récente? Est-ce que vous avez eu quelque chose pendant Noël? Peut-être vous avez ouvert un cadeau peut-être qui vous a beaucoup plu. Moi, j'ai reçu pas beaucoup de cadeaux parce que malheureusement, je suis pas enfant maintenant, mais j'aime bien recevoir des cadeaux. Donc, si vous n'avez pas réfléchi à moi, je peux attendre jusqu'à après. Ça va, ok. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait du ski? Est-ce que quelqu'un a fait du ski un peu? Est-ce que ça, c'est une expérience pas mal? En montagne, des montagnes sont impressionnant, n'est-ce pas? Peut-être, je ne sais pas. Bah, les opérateurs touristiques savent très bien que nous cherchons des expériences. Et en fait, on a pas mal d'expériences ici à Lyon qu'on peut faire. En fait, on a, par exemple, on a une chute libre en simulateur. Est-ce que vous savez qu'on a ça à Lyon? Ok, bah, vous savez, ok. Est-ce que vous savez qu'on avait une initiation au surf? Au surfing, hein? C'est pas mal. Il y a aussi une séance, il y a une séance de flottation. Ça ne me parle pas. Oh, mais ça te parle. Ok, cool. C'est excellent. Ok. Il y a même un escape game qui est là. Oh, il y a pas mal d'escape games. Mais toutes les expériences, elles attirent notre attention, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans une société où notre attention vaut de l'or. Elle est sollicitée partout, dans les portables, dans la télévision, un peu partout, les publicités. Et ils savent que nous recherchons quelque chose. Nous sommes toujours sur la recherche de l'excitation, du plaisir, de l'épanouissement, de satisfaction. Et au début de cette année, c'est un bon moment comme Tim a déjà dit, pour réfléchir à quel endroit notre attention se pose. Parce que à ce à quoi notre attention, nous prêtons l'attention, ça c'est notre vie en fait. Et donc, si nous nous concentrons sur des choses un peu superficielles, nous devenons nous-mêmes superficiels. Et donc ce soir, on va creuser quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui mérite notre attention, qui n'aura pas besoin d'être mis à jour, d'être remplacé, d'être amélioré ou changé. Cette année, on va creuser, comme tu m'as dit, l'évangile de Marc. Et se concentrer sur Jésus. Et c'est le nom de notre série, Jésus expérimenter sa personne et sa mission. Et on va voir, j'ai un petit sac d'accessoires ce soir, on va voir que Jésus ne reste pas coincé dans un livre ancien. En fait, il en sort d'un coup et il nous confronte avec ses paroles, avec ses actes. Et on veut vraiment que cette année soit l'année où on expérimente sa personne et sa mission. Et on veut une relation croissante et vivante avec Jésus. Et donc, on va aborder les premières 15 versets ce soir par trois questions. Et les trois questions sont... Qu'est-ce que l'évangile de Marc? Que dit-il de Jésus? Et en quoi ça me concerne? Donc, premièrement, qu'est-ce que l'évangile de Marc? Premier verset. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile de Marc? Ben c'est un peu comme une biographie. J'ai une petite biographie ici de Camus que je n'ai pas encore terminée. Ça fait quelques années, mais ça va, ce n'est pas grave. C'est un peu comme une biographie. C'est le genre littéraire le plus proche des évangiles. Mais c'est bien plus que cela, en fait. Le premier verset, c'est comme un titre pour tout l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Mais il dit le commencement. Et le commencement Bah oui, c'est le commencement. Mais pourquoi mis le commencement dans le titre? Parce que l'évangile de Marc, c'est l'histoire d'origine de Jésus. L'évangile de Marc est, avant que les évangiles comme Marc, Luc et Matthieu soient écrits, l'évangile était une nouvelle qu'ils ont entendue. C'est-à-dire que les évangiles n'étaient pas les premiers documents chrétiens qui étaient écrits. Les premiers documents chrétiens qui étaient écrits, c'était les lettres de Paul, en fait. Tout comme Paul dit ici. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. C'est-à-dire que les chrétiens, dans le premier siècle, ils connaissaient les grandes lignes. Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection. Ils connaissaient certaines histoires, ils connaissaient ses enseignements. Mais ils n'avaient pas Wikipédia, ils n'avaient pas l'Internet. Et donc, Marc écrit ce livre pour donner l'histoire d'origine de Jésus, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus et pour ceux qui connaissent déjà Jésus, pour expliquer l'arrière-plan, la trame de fond de Jésus. Et donc, il faut dire, dans le passé, j'ai pensé que les évangiles étaient un peu pour les débutants. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Les évangiles sont pour tous les chrétiens, afin qu'ils aient une relation croissante avec Jésus. Et donc, ça c'est l'histoire d'origine de l'évangile, mais Marc, qui a écrit cette histoire d'origine de Jésus? Ben, c'était Marc. Marc était un disciple de Jésus, il n'était pas parmi les douze, il était juste un disciple un peu normal, un peu comme nous, juste un disciple pas médiocre, mais normal, ok? Et en fait, selon Saint-Irénée, qui était un évêque lyonnais, yes, on est dans la Bible, ouais, pas exactement dans la Bible, mais on est deuxième siècle, il était évêque à Lyon, ici, et il avait une connexion avec Polycarpe, qui avait une connexion avec Jean, le disciple de Jésus, et c'est Irénée et un autre qui a dit que Marc était le scribe de Pierre. Marc travaillait avec Pierre et Paul. On peut lire ça dans le livre des Actes des Apôtres. Et on voit que Pierre appelle Marc mon fils dans sa lettre. 1 Pierre 5, verset 13. Donc, Marc était le scribe de Paul. Et on peut voir qu'il y a pas mal, ça devient un peu technique ici, donc restez avec moi, ok, ici. On peut voir, même avec ce petit truc, on peut voir que Marc avait pas mal en commun avec Luc et Matthieu. Et en fait, c'est une vraie étude des érudits, des académiques qui creusent le sujet, des sources différentes. Parfois, des gens disent, quelqu'un a créé le Nouveau Testament. Personne ne pense ça. Tous les historiens savent qu'il y a beaucoup de sources qui ont contribué, beaucoup de témoins oculaires qui ont contribué à ce qu'on a dans l'Évangile. On peut voir qu'il y a tellement de choses en commun. Il y a des choses en commun avec Marc et Matthieu, des choses en commun avec Marc et Luc, des choses uniques à Luc, les choses... Bon, donc ça devient assez compliqué, on ne va pas creuser tous les éléments-là. Tout ça pour dire, chaque Évangile a son propre style et chaque Évangile a son propre public. Matthieu, par exemple, a été écrit pour un lecteur juif. Luc a été écrit pour un lecteur grec. Jean, qui a un style un peu théologique, philosophique, poétique, que j'ai du mal à comprendre souvent, Jean a été écrit pour aider les chrétiens à croire. Marc, c'est un peu le plus général. Il n'a pas un lecteur spécifique en tête, mais il est davantage axé sur l'action et les sentiments, un peu comme un livre d'action, un peu comme un fantasy, un peu comme aventure. En fait, c'était ça, Marc. Et c'est pourquoi on a choisi expérimenter sa passion, sa personne et sa mission. Ça, c'est Marc. Et dernièrement, juste pour résumer, pour comprendre, L'histoire de Jésus, c'est l'histoire de Marc. Maintenant, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Parce que tout d'abord, après le titre, Marc lance dans le lien avec l'Ancien Testament. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Et ils sont des citations de... Est-ce que vous connaissez les citations? On peut deviner, c'est pas grave, si vous avez... ça va. Est-ce que vous voulez deviner un peu quelqu'un comme... On a creusé le livre de Malachie l'année dernière et il y a une citation de Malachie 3, là. Et une citation d'Ésaïe aussi. Donc, si vous mélangez parfois des versets bibliques dans vos têtes, c'est pas grave. En fait, les auteurs bibliques faisaient la même chose. En fait, ils ont juste mélangé les deux ici. Mais il y a deux personnes ici qu'on peut voir dans les citations, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez les deux personnes? Vous pouvez dire à haute voix si vous voulez, si ça va m'aider, quelqu'un? Bon, en fait, on voit le messager qui est Jean-Baptiste, mais vous êtes un peu avancé. Oui, on voit... Mon messager, et c'est vrai, ça c'est Jean-Baptiste, on va rencontrer lui dans quelques secondes, mais dont le travail consiste à aller en avant, à créer, à préparer le chemin pour le Seigneur. Il est là, oh oui, le Seigneur. Et donc, l'arrivée d'une personne importante dans le passé était toujours précédée par un messager. Et ici, on rencontre ce messager au verset 4. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Toute la région, tous les habitants de Jérusalem, les gens avaient soif d'une expérience authentique. À l'époque, au premier siècle. Et nous sommes les mêmes gens maintenant, n'est-ce pas? Dans le 21e siècle, nous avons toujours soif d'une expérience authentique. Même si vous allez... Qui est allé à la fête des Lumières à Lyon? Qui est allé là? Oui, c'est ça. C'était intense. Tellement de gens autour et on est tous là pour une expérience. Mais ici... Ils avaient une expérience qui est un peu plus extraordinaire que juste, je sais pas, des projecteurs de lumière. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage et proclamait : Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher le courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean est manifestement le messager. Il surgit du désert, il est vêtu de façon un peu étrange pour nous. Et c'est vrai, à cette époque, il y avait des personnages un peu comme Jean qui vivaient en marge de la société, comme lui. Mais il ressemble à un survivaliste, n'est-ce pas? C'est un peu comme il s'habille de peau d'animaux morts, se nourrit d'insectes. Il n'est pas participant dans une émission de télé-réalité comme Koh-Lanta, ok? Ce n'est pas son rôle. Il ressemble plutôt au prophète le plus célèbre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Élie, qui a fait toutes ces choses, qui a mangé des insectes, qui a mangé de miel sauvage. C'est-à-dire que Jean représente tout l'Ancien Testament. Les prophètes, la parole, la loi, tout ça. Jean pointait vers Jésus. Jean, tout comme l'ensemble de l'Ancien Testament, nous prépare, nous oriente vers Jésus. Et c'est le moment-là, ce moment-là, c'était un peu comme la télévision et le passage du noir et blanc à la couleur. N'est-ce pas? C'est le moment entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament où la couleur arrive, où l'Esprit arrive. Et il y a une continuité et une grande différence en même temps ici. On continue. Deuxième question. Que dit-il de Jésus, l'évangile de Marc? Bah, il parle de sa personne et de sa mission. Autrement dit, son identité, qui il est, et sa fonction, pourquoi il est venu. Et tout au long de l'évangile, il parle toujours de l'identité de Dieu, sa personne et sa mission. Et la première moitié, chapitre 1 jusqu'au 8, ça parle de, ça se focalise sur son identité. Et la deuxième moitié, ça se focalise sur sa mission. Mais les deux sont présents toujours et on les voit tous les deux ici. Par exemple, sa personne, qui il est. Marc révèle l'identité de Jésus souvent très doucement. Parfois, en fait, il fait ça d'une manière un peu énigmatique et parfois, et j'ai entendu pas mal de gens qui ont dit, mais pourquoi il n'était pas plus clair? Ça aurait été mieux s'il était plus clair. Mais ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une faute. C'est fait exprès, en fait. C'est une caractéristique de Marc. Il révèle l'identité de Jésus doucement. Même par exemple, le premier titre, qu'est-ce qu'il a dit? Le commencement de l'évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, peut faire référence au peuple d'Israël, peut faire référence au roi, peut faire référence même à Dieu. Et Jésus englobe toutes ces références ici. On a déjà dit, verset 3, qu'il est le Seigneur. Qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu promis tout au long de l'Ancien Testament. Il est vraiment un personnage important à l'époque, mais même à notre époque ici. On a déjà dit, c'est quoi l'année aujourd'hui? 2024, an après la naissance de Jésus. Nous comptons l'histoire autour de lui. Même au-delà de là, nos valeurs les plus chères, même dans notre société, proviennent pas des lumières, pas de la science, pas de la raison, mais de Jésus. Donc il est un personnage historique tellement important. Et ensuite on arrive à verset 9. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Il y a un petit problème ici, n'est-ce pas, le baptême de Jésus? Et c'est quoi le petit problème? Jean faisait un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc, Jésus, pourquoi il se fait baptiser ici? C'était pour ses propres péchés? C'était... Non, il me semble qu'il s'identifiait à son peuple ici. C'est un peu comme l'habitude de... L'habitude de Gaulle, président de Gaulle, n'est-ce pas? Il prenait parfois, il disait un bain de foule, n'est-ce pas? Il allait dans la foule, il parlait aux gens, il touchait les gens, il connectait aux Français. Et c'était une manière de dire que je suis parmi vous, je suis un de vous, un peu comme ça. Il a fait ça plusieurs fois dans sa carrière et c'était un peu la même chose, mais plus intense avec Jésus. Jésus ne se contente pas juste de marcher près de nous. Jésus a pris un vrai bain de foule, n'est-ce pas? Il le baptême s'identifie à nous. Tout comme il ne reste pas loin, il plonge en profondeur. C'est-à-dire que Jésus, il fait l'expérience de la vie humaine. Manger, boire, aller aux toilettes, être déçu, être rejeté. Il a expérimenté toutes les émotions que nous expérimentons. La joie, la tristesse, la fatigue, tout. Il sait ce que c'est de vivre comme nous, Jésus. Il s'identifie avec nous. Et on voit donc l'identité de Jésus. C'est, d'un côté, c'est tellement haut, mais c'est aussi tellement en bas, c'est juste un être humain comme nous. Ça, c'est l'identité de Jésus. Et on voit le reste de ces versets. On voit, au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fait entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. On va parler des miracles un peu plus tard dans notre série et leur historicité, mais je veux me concentrer ici sur la phrase « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Est-ce que, qui a vu la série sur Netflix sur Tapi? Est-ce que vous avez vu Tapi? Okay. C'est une série sur Bernard Tapi. C'était un homme ordinaire à l'ambition sans borne, en fait. Et donc, même moi, j'ai grandi en Australie, et même moi en Australie, j'ai entendu dire de Bernard Tapi à le moment, parce que j'ai bien aimé le foot. Et il a appris à Marseille, et puis, ça suffit. Mais ce qui est tellement important dans la série, tu as l'impression à la fin qu'il fait tout ça pour gagner l'approbation de son père. Et c'est vraiment émouvant, n'est-ce pas? Tu vois, chaque épisode presque, il y a sa relation avec son père. Et c'est assez profond. Et je me demande si souvent nos motivations dans nos vies sont toujours liées à l'approbation, soit de nos parents, soit des autres, des gens qui nous entourent. Et ce qu'on va voir avec Jésus, et que non seulement il a l'approbation de son Père, mais qu'il nous l'offre aussi. Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur, le Fils bien-aimé, celui qui plaît à Dieu, et il est aussi un être humain, un homme juif du premier siècle qui s'identifie avec nous. Ça, c'est son identité, on va développer ça tout au long de notre série. Deuxième moitié de l'évangile, on va creuser sa mission. Pourquoi il est venu? Nous avons déjà dit qu'il est venu s'identifier à nous, mais quoi d'autre? Mais il me semble que c'était pour accomplir les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Si vous avez lu l'Ancien Testament, c'est comme une succession d'échecs, en fait. Tout l'Ancien Testament. C'est tellement long et des échecs un peu partout. Dès le début, Dieu crée un monde incroyable, magnifique. Et 2 secondes plus tard, les êtres humains, ils rebellent contre Dieu. Ils veulent vivre leur vie comme ils veulent. Et en fait, c'est la chute. Ils rebellent contre Dieu. Et puis Dieu fait une promesse à Abraham qu'il va bénir Abraham, qu'il va donner un nom, un pays, une grande nation. Et puis Abraham, il échoue. Puis il sauve le peuple d'Égypte, il libère son peuple de l'esclavage en Égypte. Et le moment où ils sortent, ils arrivent dans le désert, ils commencent à se plaindre. Ils grognent, ils échouent. Et qu'est-ce que Jésus fait tout d'abord après son baptême? Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et on peut voir que Jésus, on va voir en fait, que Jésus résiste la tentation d'Adam et Ève, la tentation du peuple de Dieu. Il résiste, il réussit où ils ont échoué. Ça va être un peu la même chose. Tout au long de l'Ancien Testament, il continue à échouer à ce point qu'ils vont en exil par les Assyriens et les Babyloniens. Et en fait, tout est un peu pourri. Mais à la fin, Dieu leur promet qu'il les bénira, qu'il les sauvera, qu'il enverra un vrai roi. Et puis on arrive à ce moment, à Jésus, des siècles plus tard. Et on arrive à ce que Jésus fait en verset 14. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée et proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, la dernière chose, il est venu pour prêcher la bonne nouvelle. Et dans l'Antiquité, bon, je continue, il y a pas mal de choses là, n'est-ce pas? Dans l'Antiquité, un évangile était annoncé, c'était une annonce importante et joyeuse, n'est-ce pas? C'était comme nos journaux, comme une victoire dans la guerre, ou nous avons gagné la naissance d'un roi. peut-être on n'a jamais pensé à cela, mais je pense que la foi chrétienne, c'est presque la seule religion ou vision du monde qui a une bonne nouvelle comme ça. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. C'est-à-dire que Jésus est tellement différent de tous les autres chefs religieux. Ils ont donné une liste des instructions ou une voie à suivre, des règles, un chemin. Et c'est vrai que Jésus nous donne des choses comme ça, une voie à suivre. Mais tout d'abord, Jésus est venu prêcher une bonne nouvelle. Non pas sur ce que vous devez faire, mais sur ce qu'il va faire. Quand il dit « le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche », il parle de sa présence qui est là. Il parle de ce qu'il allait faire pour nous. C'est-à-dire que l'évangile concerne la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et donc le centre de la foi chrétienne, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'histoire. C'est Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et dans une société qui court toujours après la prochaine expérience, le prochain événement qui arrive, ici on a une bonne nouvelle sur la personne la plus importante de notre histoire, qui est mieux qu'une expérience à suivre, qui est mieux qu'un événement, même les Jeux Olympiques qui vont se passer cette année. C'est mieux que ça. C'est mieux qu'une relation. C'est mieux qu'un travail épanouissant. C'est mieux que toutes ces choses. Bon, en quoi ça me concerne? Nous avons peut-être lu certaines biographies comme, je ne sais pas, Camus ou d'autres qui nous ont touchés. Mais ce qui est différent dans ce livre, c'est qu'elle nous parle. Donc ce livre, c'est assez spécial, l'Évangile. C'est un peu comme un livre où quand tu ouvres le livre, en fait, des mots sortent de la page, n'est-ce pas? Des mots sortent un peu comme ici. Oh, wow! Oh, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Je vais garder ça parce que vous allez casser tout ça. Je n'ai pas confiance en vous. Mais c'est impressionnant, n'est-ce pas? Et c'est vraiment les mots dans l'Évangile, quand tu les lis, ils sortent de la page. Ils sortent de la bouche de Jésus et ils nous confrontent, ils nous frappent, ils nous touchent. Et c'est l'expérience ultime en fait. C'est pourquoi nous avons appelé cette série « Expérimenter sa personne ». Parce que la réponse attendue par Jésus est à la fin de verset 15. « Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Il nous frappe. Et j'aime bien la réponse que Jésus cherche chez nous, parce que c'est déconcertant et soulageant en même temps. C'est déconcertant parce qu'il dit, il ne dit pas « suis ton cœur », il ne dit pas « trouve ta propre identité », il ne dit pas « accepte-toi tel que tu es ». Non, il ne dit pas ça, il dit « changer ». Donc ça c'est un peu « attends ». Il dit « changer d'attitude ». Restez pas où vous êtes. Non, ça, c'est pas bon. Changez d'attitude. C'est un peu déconcertant, n'est-ce pas? Et en fait, on a le mot repentance. Et le mot repentance, c'est un mot religieux maintenant, mais pas vraiment dans le passé. Le mot repentance, c'est le mot qu'on traduit ici, changer d'attitude. Le repentance ne signifie pas être bon, ou faire des bonnes œuvres, ou faire la pénitence. Non, repentance, ça se traduit le mot en grec metanoia. Et il y a deux aspects, metanoia, meta comme métamorphose, donc ça veut dire changer, et noyer, c'est la tête, les pensées. Changer d'attitude, changement de cœur. Arrêtez d'aller dans cette direction où toi, tu es le roi de ta vie, où toi, tu décides, où toi, tu es le centre. Arrêtez d'aller dans cette direction. Et allez dans la direction que Jésus te montre. Arrêtez d'aller là. Mettre Dieu au centre et croire à la bonne nouvelle. Crois que Dieu te pardonne, que Dieu sait qui est bon pour toi, que Jésus montre ce que c'est d'être un vrai être humain, que Jésus révèle Dieu, que Jésus réussit où on a échoué. La bonne nouvelle, j'ai toujours aimé la citation de Tim Keller qui a dit, « La bonne nouvelle nous dit que tu es pire que tu as pensé, mais que Dieu t'aime plus que tu pourrais imaginer. » Changer d'attitude et croire à la bonne nouvelle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait ça, mais non seulement une fois, mais tous les jours de sa vie. Ce n'est pas seulement l'entrée, c'est le moteur de la vie pour les chrétiens. En fait, tu ne peux pas grandir en maturité si tu ne le fais pas chaque jour. Et donc, juste pour terminer, on a une illustration de cette réponse. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Moi, j'adore le fait que les premiers disciples de Jésus n'étaient ni les philosophes, ni les leaders, ni les gens de grande réputation. Ils étaient des pêcheurs, des travailleurs manuels avec l'odeur de poisson. C'était probablement pas la première fois qu'ils ont rencontré Jésus. Et normalement, les disciples, à l'époque, approchent leur rabbin et demandent à le suivre. Mais celui-ci, c'est l'inverse. C'est Jésus qui vient à eux et leur dit, « Suivez-moi. » Et quand on entend ces mots, il nous frappe et il nous dit, « Suivez-moi. » Suivez Jésus dans votre vie. Et ça, c'est l'appel pour nous tous. C'était l'appel à l'époque, premier siècle, c'est l'appel maintenant, 21e siècle. Changer d'attitude. Changer d'attitude. Mettre Dieu au premier et les autres dans vos relations, dans votre travail, avec vos amis, avec vos enfants, surtout avec Dieu. Et avoir une relation, une vraie relation avec Jésus. Cette année, c'est l'année de développer notre relation avec Jésus. Ça, c'est cool, n'est-ce pas? Ça, de comprendre sa personne et de vivre sa mission. C'est-à-dire parler de Jésus autour de nous, avec d'autres personnes. Aimez-les, surveillez-les, cherchez-les. Moi, je vais prier maintenant. Je vais prier que cette année, les mots de ce livre nous frappent d'une manière nouvelle pour nous. Prions. Seigneur, merci pour l'Évangile. Merci pour le Jésus qu'on découvre ici dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que Jésus n'est pas loin de nous. Bien sûr, ça fait 2000 ans, mais quand on lit ta parole, il nous parle. On peut voir ses émotions, ses actes, ses mots, et on peut le suivre. Seigneur, par ton esprit, donne-nous la capacité de changer d'attitude et de croire en lui, dans nos vies, dans nos relations, au travail, chez nous, partout. Et Seigneur, donne-nous le courage de le suivre dans sa mission. La mission que notre monde vraiment a besoin de voir. Et on prie ça au nom de Jésus. Amen. Une manière de suivre Jésus, c'est de prendre la Sainte Cène. Et on fait ça chaque célébration parce qu'on veut concrétiser notre discipulat de Jésus. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose de concret, physique. On veut digérer quelque chose qui nous rappelle qu'on suit Jésus chaque jour. Et donc, on a le pain et le jus et le vin ici. Et donc, Je vous invite, je vous encourage à prendre le pain qui représente son corps brisé, et à prendre le jus, le vin qui représente son sang versé pour nous. Si vous êtes ici et vous ne connaissez pas Jésus, je vous encourage à rester où vous êtes, mais de parler avec Jésus, même dans ta tête, même chaque jour, de dire à Dieu, révèle-toi, Dieu, pour moi. Et si vous connaissez Jésus, si vous avez changé d'attitude et cru en lui, je vous invite à prendre le pain et le vin avec moi maintenant.